rien parce que ce sont des wagons, normalement il était marqué SNCF, il y a un numéro d'immatriculation sur les wagons, il était marqué SNCF, et maintenant ils enlèvent le SNCF, ils mettent un F. Et tous les Allemands, ils mettent une étiquette de réforme sur ces wagons. Et je leur dis ça, puis ils disent, ben, je dis, je vais aller voir après, parce que je vais tout simplement trouver une réforme. Donc je parle avec mon vélo, puis je prie, je dis, Seigneur, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de wagons dans le chantier, je dis, Seigneur, fais-moi voir, fais-moi trouver une étiquette. Et puis il me dit, baisse tes yeux. Et puis, je fais deux mètres à terre, une étiquette. Si t'es pas dans le cadre de l'étiquette, c'était à terre. Donc je reviens et je témoigne tout de suite. Parce qu'il y a un chef, et puis je dis, voilà, je dis, parce que bien sûr mes collègues, hein, ils savent que je suis chrétien. Et puis j'ai dit, voilà, j'étais sur mon vélo, puis j'ai prié, je dis, Seigneur, donne-moi une étiquette. Et puis il m'a dit, regarde à terre, et puis j'ai trouvé une étiquette. Ah ben ça commence à discuter. Ah, mais c'est rire. Ah, un miracle. Et puis, mais enfin, voilà, faut pas hésiter, parce que faut pas hésiter de parler du Seigneur. Quand on a l'occasion, c'est tellement rare. Donc ce chef-là, il était là, et puis j'ai pas hésité, hein, moi. Que ce soit chef ou pas, j'ai pas dû se dire. Voilà.
Ouais, alors la semaine dernière, il y a beaucoup de messages qui étaient sur donner son témoignage, enfin parler du Seigneur. Alors j'étais repartie quinquée, je me dis de toute façon, c'est un jour, ça doit m'arriver. Bah, je prendrai toutes mes forces et puis je parlerai du Seigneur. Bah, le mardi, en fait, j'ai appris qu'un de mes collègues en fait était atteint d'une leucémie. Alors, déjà, vu que c'était un très bon collègue, déjà, la chose de l'entendre. Et puis après, se dire, maintenant, je vais dire, t'inquiète pas, le Seigneur va te sauver. Enfin, c'est un peu difficile, surtout que je travaille dans l'enseignement. Donc, dans une école de musique, je suis professeur de musique. Donc, parler du Seigneur, c'est difficile parce qu'on n'a pas le droit, déjà, parce qu'on est dans un établissement laïque. Donc même si c'est un professeur, c'est assez difficile. Donc j'aurais voulu avoir la prière pour me sentir soutenue. Parce que cette semaine, je vais devoir aller le voir. Et moi, mon but, c'est d'aller le voir en lui disant, mais t'inquiète pas, je vais prier pour toi. Mais voilà, quoi. Après, il faut en avoir le courage. Et je sais que je vais en avoir besoin pour cette fois-là. Je vous remercie.
Je m'excuse, je reviens, tu sais, je prends la place, hein, excusez-moi. Bon, je voudrais avant toute chose, je suis de passage, dire vous remercier. Enfin, c'est deux choses. Là, je suis venu parce que le Seigneur m'a donné quelque chose. Là, sinon, tout à l'heure assis. Hein, sinon, je n'aurais pas venu. Enfin, je vous remercie, frères et sœurs, pour le temps passé et aussi le temps à venir, le temps présent. Mais j'avais fait part à vos anciens, enfin, à vos frères qui sont impliqués. Je vous remercie de l'accueil que vous m'avez adressé lorsque je suis venu. Hein, j'ai apprécié l'accueil, justement, votre amour, alors que vous puissiez. Que nous puissions, même moi le premier, bien sûr, persévérer dans ces choses-là, que nous puissions nous accepter les uns les autres, nous recevoir les uns les autres. Hein, c'est marqué dans la parole de Dieu, Christ nous a reçus, hein, nous accepter. Alors merci pour cela. Alors je vais vous donner une petite pensée du Seigneur. En priant ce matin, vous savez, moi, le Seigneur, il a une pensée, il ne me donne pas un récital, hein, il me donne deux mots. Alors les deux mots, moi, c'est un mot qu'il les trouve dans la parole. Ce matin, il me donnait ces deux mots, ce Seigneur, faiblesse et ville. Alors vous savez où que ça se trouve, ça? C'est dans la première épître de Paul aux Corinthiens. On va le lire ensemble. C'était pas préparé, hein, généralement. Enfin. Mais je pense que c'est important, même pour moi, ça, pour chacun d'entre nous. Un Corinthien, au verset 27. Un Corinthien, excusez-moi. Verset 27. J'en recoupe un petit peu pour ne pas non plus empiéter. C'est pas le but de. Le but, c'est de recevoir la pensée de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Je répète, Dieu a choisi les choses folles du monde. Dieu a choisi les choses faibles du monde. Dieu a choisi les choses viles du monde. Afin que nulle chair se glorifie. Frères et sœurs, dans notre vie si bonne, dans notre combat, même moi ce matin avant de venir, dans notre vie courante, combien de fois il y a deux choses, vous savez. Il y a l'accusateur, bien sûr. Mais il y a des fois notre propre cœur qui nous accuse, qui nous condamne. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Alors donc il y a deux choses. Il y a non seulement l'adversaire, mais nous, et des fois, on rentre dans le jeu de l'adversaire et on réalise, et c'est la vérité, on réalise qu'on est faible. Et des fois, on réalise aussi qu'on est comme des choses folles du monde. On réalise aussi qu'on est peut-être moins, pour certains, peut-être beaucoup moins, mais qu'on est des choses viles du monde. Et vous savez, ces choses-là, ça fait un fardeau sur notre cœur, même lorsqu'on est dans la maison de Dieu. Et on ne peut pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Dieu nous a choisis, frères et sœurs. Que nous soyons des choses folles, des choses viles, des choses faibles, Dieu nous a choisis. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, cela n'a pas pour but de nous accuser, mais il nous a dit, écoutez plus loin, il nous a dit plus loin, verset 30, « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, écoutez ici, frères et sœurs, sagesse, justice, sanctification, rédemption, amen. » Et plus loin, il nous a dit, même dessus, il a été fait nous pour nous, puissance de Dieu, amen. Et vous savez, frères et sœurs, nous devons bien sûr examiner, mais pas nous arrêter, il se peut qu'on se sent faible. Il se peut qu'on sent comme des choses folles, comme des choses incapables, comme des choses viles. Mais Dieu nous rappelle ces choses, ou s'il nous rappelle, ce n'est pas pour que nous les ayons l'esprit, mais il veut vous dire, il veut me dire ce matin, je veux que tu saches que pour toi, le Père parle, mon Fils a été fait justice pour toi. Amen. Lorsqu'on se sent accusé, on peut dire, Seigneur, je ne me présente pas avec ma propre justice, Seigneur. Parce que vous savez, si on avait sa propre justice, on n'aurait pas été sauvés. Amen. Et quel que soit, frères et sœurs, le chemin que vous avez accompli, quelles que soient les années que vous avez traversées, de l'enfant au vieillard, aujourd'hui encore, à l'instant, maintenant, Jésus est encore notre justice. Est-ce que nous croyons? Jésus est encore notre force, notre puissance. Amen. Même si nous sommes dans la faiblesse. Je suis faible, mais Christ est ma puissance. Amen. Même si nous nous sentons repoussés, Jésus est là. Amen. Alors, frères et sœurs, que nous puissions ce matin réaliser, c'est vrai, il y a des faiblesses, il y a des choses, c'est vrai, des fois on se sent incapable, est-ce que je peux louer, est-ce que je peux prier, on se sent vil. Mais sachez que c'est vous, frères et sœurs, que c'est nous, que c'est moi que Dieu a choisi. Amen. Pour confondre les sages, pour confondre celles qui croient qu'ils sont quelque chose, mais en réalité, devant Dieu, ils ne sont rien. Amen. Mais vous, frères et sœurs, vous êtes quelque chose. Amen. C'est par Dieu. J'aime bien cette parole. Tout cela vient de Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs, que ce matin, nous puissions aller dans notre cœur. Non ma propre justice, Seigneur, mais tu demeures ma justice. Amen. Non pas regarder à notre force, notre faiblesse. Seigneur, il est vrai que je suis faible, mais tu as été fait pour moi. Pour vous, c'est marqué. Pas pour moi, pour vous. Il a été fait puissance de Dieu. Amen. Est-ce que nous croyons, frères et sœurs? Vous savez, bien souvent, on se regarde à nous-mêmes, on oublie par contre ce que Dieu accomplit. Amen. Et vous savez, justement, alors je pensais, on parle du pain et du vin, c'est vrai, même pour nous, ça peut venir quelque chose d'habituel ou quelque chose d'exceptionnel, enfin bref, passons. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le pain? Paul l'a dit, justement. C'est quelque chose qui a été brisé, c'est le corps de Jésus, bien sûr. Mais cela nous parle, frères et sœurs. De quoi, frères et sœurs? De la victoire de Dieu. Cela nous parle de la croix. Cela nous parle que Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités. Amen. Et lorsqu'on prend le vin et le pain, on doit dire, Seigneur, chante dans ta victoire. Amen. Mais il y a une différence, vous avez vu là. Il a choisi les faibles. Il y a toujours cette faiblesse. Il y a toujours ce qu'on repousse, nous. Mes frères et sœurs, regardons ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Regardons en Jésus pour marcher, frères et sœurs. Vous savez, nous, le problème, c'est qu'on va être sauvé par la foi. Mais des fois, on veut marcher, comment, frères et sœurs? Par l'énergie de la chair. Mon juste vivra comment, frères et sœurs? Par la foi. Amen. Et s'il se retire? Vous savez, se retirer, ce n'est pas simplement quitter l'assemblée. Ce n'est pas abandonner nos réunions. Se retirer, ça veut dire se retirer avec cette communion avec Dieu. Cette relation avec lui. Demeurez en moi, Jésus a dit. Et je demeurerai en vous. Amen. Alors que ce matin, dans votre cœur, vous savez, il y a des fois, on se parle les uns aux autres, mais il y a des fois, il faut parler à son cœur, de dire à son cœur, mon cœur, réjouis-toi. Jésus, c'est ta justice. Jésus, c'est ta rédemption. Jésus, c'est ta sanctification, frères et sœurs. Vous savez, des fois, on l'oublie, hein. Il a été fait pour nous, sanctification également, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? C'est pas moi qui le dis, hein, je m'excuse, mais c'est la parole de Dieu. Alors que ce matin, s'il y a des faibles parmi nous, s'il y a des personnes repoussées, puis parce qu'il se passe vil, des personnes folles, sachez qu'aux yeux de Dieu, vous avez été choisis. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, c'est-à-dire que le Seigneur nous aide à avancer les uns les autres. Vous savez, dans la parole de Dieu, c'est marqué, leur force augmente pendant la marche. Et si on marche avec Jésus, Jésus est là pour augmenter notre force. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci Jean-Paul, parce que hier, vraiment, je me sentais faible. Et j'étais triste, et hier soir, en priant avec mon mari, je pleurais. Et donc, bon, je me suis endormie sur ma tristesse, mais tout en sachant que Dieu me parlait et allait me réconforter. Et ce matin, dans ma méditation, j'ai lu les psaumes 42 et 43, et je vais vous lire le commentaire, parce que j'ai pas eu le temps pour en parler ce matin, j'ai pas eu le temps de l'approfondir dans mes pensées personnelles. Donc je vais vous lire ce que j'ai lu et qui m'a réconforté. Quand la joie disparaît, parle à ton âme. Il est possible de s'encourager soi-même à l'aide de promesses divines et de proclamations de paroles de foi. David l'a fait dans 1 Samuel 36, mais David se fortifia en l'Éternel. Ainsi que Paul et Silas, en chantant dans des circonstances difficiles, ils étaient en prison. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Les sentiments de notre âme peuvent varier considérablement en raison des épreuves traversées. Il nous faut un stabilisateur, quelqu'un qui nous tire vers le haut, et c'est vrai, quelqu'un qui nous tire vers le haut. Le Saint-Esprit nous a été donné pour cela, nous encourager, nous rendre la joie, même quand cela va mal. Une manière de le laisser agir nous est proposée dans Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur. Et comme notre frère nous l'a dit, il ne faut pas regarder à notre justice, De toute façon, on a été choisi par Dieu. Donc il faut chanter, il faut le célébrer. Et pour terminer, et c'est vrai que c'est un cantique que j'aime beaucoup, c'est courant, comme brame le cerf. À quoi bon me désoler ? Alors je ne vais pas le chanter. À quoi bon me désoler ? À quoi bon me plaindre de mon sort ? Mieux vaut espérer en Dieu et le laisser à nouveau agir. C'est lui, mon sauveur et mon Dieu. Et je voulais vous le partager ce matin parce que, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et vraiment, le Seigneur, il est vivant. Il nous parle sans cesse. Hier soir, j'étais triste. Bon, j'ai prié avec mon mari avec les larmes. Le Seigneur a vu mon cœur. Et ce matin, je lisais le psaume 42 et 43. Lisez-le chez vous. C'est quand la joie disparaît, il parle à ton âme. Et c'est vrai qu'il est vivant. Et on peut le remercier pour sa fidélité pour chacun d'entre nous. Amen.
En fait, hier soir, avec les ados, on est allé à Roubaix où il y avait un séminaire sur la famille. Et le soir, c'était réservé aux ados et aux jeunes sur le thème parents, mode d'emploi. Et en fait, les parents étaient exclus de la salle. Ils étaient dans une salle à côté, ils priaient et ils n'avaient pas le droit d'être dans la salle où se passaient les choses. Alors moi, si je vois un peu sur les deux tableaux, parents, mais jeunes quand même. Et puis comme il a dit, bon, jeunes, c'est jusque 30, 35 ans. Je fais... Et puis je suis resté dans la salle, j'ai pu écouter ce qui se disait. Je passe encore pour l'instant, donc ça... Je suis encore jeune et parent, donc ça marche. Mais il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Et quand on est ressorti, on s'est dit, mince, il a parlé qu'une heure et il aurait pu parler deux heures. On serait resté scotché à tout ce qu'il disait, tellement c'était intéressant. Et beaucoup, forcément, tout était pour les ados et les jeunes. Mais il y avait vraiment des encouragements, même sans que les parents soient là, pour les parents et des choses où... ou des choses qui nous motivent et qui doivent nous aider. Entre autres, il disait que souvent quand on est ado, on est jeune, on est enflammé pour le Seigneur, et puis on se dit, tous les gens là, enfin les vieux, si je peux me permettre, mais c'est pas péjoratif, ils sont assis, ils font plus rien, ils ont perdu la flamme, ils sont plus marrants, ça vaut plus le coup d'être comme ça. Il dit c'est un peu l'esprit souvent des jeunes, des ados. Et il dit, on a tous eu plus ou moins cet esprit-là, mais il dit, si on regarde 1 Jean, on voit que Jean s'adresse d'abord aux petits-enfants, après aux jeunes gens, et après aux pères et aux parents. Et il dit, il n'y a pas une finalité en soi à être jeune et enflammé pour le Seigneur. Il dit, ça, dans un sens, c'est bien, faut rester enflammé pour le Seigneur, c'est sûr, mais il n'y a pas de... faut pas se dire, il faut être jeune et enflammé, sinon ça vaut pas le coup. On peut être vieux et enflammé, et c'est très bien aussi, mais il dit surtout, on doit être après parent. Alors pas forcément parent physique, pas toujours, mais en tout cas parent spirituel. On ne doit pas rester jeune et puis un peu tout risque à essayer tout, à faire beaucoup de choses comme ça. Il faut un moment où on devient nous-mêmes des points de repère pour les autres, où on devient des parents pour les autres et où on peut les aider à se fixer, à s'équilibrer dans la vie. Et donc c'était un encouragement pour nous de se dire comment est-ce que je suis perçu. Alors c'est vrai que moi je joue sur les deux tableaux, mais est-ce que du côté des qualités je joue aussi sur les deux tableaux? Est-ce que le reste jeune est enflammé et est-ce qu'en même temps je suis un point de repère pour les jeunes? Et c'est important de réfléchir, est-ce que je suis vraiment dans ma vie, dans l'église autour, un point de repère pour les jeunes, quelqu'un qui pourra aider, quelqu'un qui pourra conseiller? Et il y a eu beaucoup de choses comme ça. Il y a eu entre autres deux citations qui m'ont époustouflé. Je pense qu'on a tous eu à peu près la même réaction quand il a cité deux choses. Alors j'ai plus les citations exactes, mais c'était la première, c'était en gros un jeune qui disait oh là là, les personnes, les adultes, ils sont pas marrants, ils sont pas marrants quoi. On va simplifier. Et une citation d'adulte qui disait les jeunes de nos jours, c'est plus ça. Ils sont dépravés, ils sont immoraux, ils se tiennent à rien et on voit vraiment que ça va être la fin du monde. Hein. Là, c'est le début de la fin. La première citation a été retrouvée dans des papyrus qui datent de 2000 avant Jésus-Christ. Et la deuxième citation date de papier babylonien d'encore avant. Et quand il nous a dit ça, on était « Ah ouais, quand même !» Et on se dit toujours « Bon, les adolescents, c'est l'âge bête. » Il dit c'est quelque chose qu'on entend souvent et bon, il faut laisser passer et puis c'est tout. Et il dit « On croit toujours que c'est nouveau et que les jeunes de maintenant, c'est plus ça. » Et ça fait 5000 ans qu'on dit que les jeunes de maintenant, c'est plus ça. Il y a juste un souci d'inadéquation, de choses qui ne collent pas entre les ados et les parents. Les ados qui changent tout le temps, qui sont tout le temps en train de changer, essayer des nouvelles choses, vivre des nouvelles choses. Et les parents, qui au bout d'un certain âge, lui fixé à 35, donc encore une fois, je suis passé juste. Il disait, les parents, au bout d'un certain temps, ils aiment bien la vie régulière, arrêter de changer tout le temps, se fixer et prendre des repères aussi dans un sens. Il dit, c'est pour ça que les jeunes, on a du mal à les comprendre, ils changent tout le temps, alors que nous, on aimerait garder quelque chose de bien, bien cadré, plus structuré. Et donc, c'était intéressant pour nous de savoir, est-ce que, dans un sens, est-ce qu'on est après 35 ans ou avant 35 ans dans nos vies avec le Seigneur? Est-ce que quand le Seigneur, il essaye de me bouger, je lui dis, oh, Seigneur, moi, c'est bon, j'ai donné, j'ai trop bougé, maintenant, on fixe, on met un cadre et puis on reste dans ce cadre-là jusqu'au bout? Ou est-ce que dans ma vie avec le Seigneur, je reste jeune dans un sens jusqu'au bout, même si je dois devenir mature et parent aussi. Mais est-ce que je reste jeune et quand le Seigneur, maintenant, il faut que tu essayes ça, eh ben on reste souple et on reste malléable dans les mains du Seigneur. Et c'est des petites choses comme ça qu'il nous a dit. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vais récupérer l'enregistrement de hier et j'essaierai de le mettre sur CD pour faire passer. Il y avait vraiment des très, très bonnes choses. Et on est ressorti en disant, zut, on aurait pu rester jusqu'à 2h du matin à l'écouter. On était scotchés à tout ce qu'il disait, c'était vraiment, vraiment très intéressant.
Ah oui, mais enfin bon. On est vieux. Bonjour. Le Seigneur a été bon avec nous, on a eu beaucoup de paroles de sa part déjà, et je souhaite que tout ce qui a été donné ce matin vous puissiez le recevoir comme un don de Dieu. Il s'est donné et il continue à se donner jour après jour au travers de sa parole. Seigneur, merci pour qui tu es. Seigneur, nous avons soif de te connaître encore mieux, encore plus profondément. Nous avons soif, Seigneur, d'observer comment tu agis au travers de chacun d'entre nous. Nous avons soif, Seigneur, de te voir à l'œuvre. Seigneur, nous voulons te laisser toute la place. Rien garder pour nous. Seigneur, te donner tout afin que tu puisses nous combler, nous satisfaire de tous les biens qui viennent de ton trône. Dans le nom béni de Jésus. Amen. J'aimerais que nous lisions un passage dans Matthieu. Chapitre 9. C'est un épisode où Jésus se retrouve en compagnie des pharisiens, verset 10. Jusqu'au verset 13. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, mais ce sont les pécheurs. » C'est un passage qui est extrêmement riche, avec peu de mots. Il y a énormément de choses qui sont dites ici. Et je prétends absolument pas être exhaustif, et je vais juste évoquer quelques aspects d'un verset qui est « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice. » Ce matin, j'aimerais me souhaiter une vie spirituelle dans laquelle Dieu puisse prendre plaisir. Je prends plaisir. Et on peut se poser la question, mais quand Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il prend ? Est-ce qu'il prend une claque ? Ou est-ce qu'il prend plaisir à nous regarder ? Dans ces paroles, il y a beaucoup plus, dans les paroles de Jésus, « Allez et apprenez », il y a beaucoup plus qu'un conseil pédagogique ou didactique sur l'apprentissage de la théorie de ce que Dieu veut dire lorsqu'il dit « Je prends plaisir ». Il y a beaucoup plus que ça. Il y a toute la colère de Dieu contenue dans ces paroles. Ce n'était pas l'habitude de Jésus de dire aux gens « Allez et apprenez ». Son habitude, c'était de dire « Venez et voyez ». Venez et recevez. Mais là, dans ces circonstances, Jésus les renvoie. Il les renvoie à Ésaïe, chapitre 1, verset 17. Allez et apprenez, parce qu'ils n'avaient pas encore appris. Ça faisait des années qu'ils étaient dedans, et ils n'avaient pas appris. Et Jésus les renvoie à leurs fondamentaux. Il les renvoie à ce qu'ils auraient dû comprendre. Allez et apprenez. C'est un reproche que fait Jésus aux pharisiens. C'est un peu aussi ce qu'il disait à Nicodème. Quand Nicodème lui disait, mais est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère? Et Jésus lui dit, tu es un docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Il y a de la colère et il y a de la tristesse dans les paroles de Jésus. N'est-ce pas à la fin? Dans un autre, enfin, si vous voulez, derrière ces paroles, c'est la condamnation, en fait, de Dieu sur un peuple qui se croit juste. C'est la condamnation de Dieu sur un peuple qui refuse de comprendre ce qui est en train de se passer avec la venue de Jésus. Chez nous, ces paroles doivent faire écho dans nos vies. Et soit nous avons des vies en dents de scie, une fois ça va, une fois ça va pas, soit peut-être dans l'Église, nous avons des gens qui sont de ceux à qui Jésus dirait « Allez et apprenez », et d'autres à qui Jésus dirait plutôt « Venez et voyez ». Et j'aimerais parler un peu de ces deux groupes ou de ces deux attitudes qui peuvent exister dans une vie chrétienne. L'attitude d'abord des croyants attachés à la miséricorde. Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice. Et l'attitude où le groupe des croyants qui sont attachés à un service chrétien inutile, sans objet, sans intérêt pour Dieu. J'avoue que cette prédication a été un peu pénible à faire, parce que c'est parfois difficile à la lecture de la parole de voir des fois le doigt de Dieu se pointer sur soi-même et de dire à quel point peut-être je suis concerné. Et donc c'est en toute humilité que je viens devant vous ce matin, parce que je me sens très concerné par tout ce qui est dit ce matin, peut-être plus encore qu'à d'autres occasions. Mais c'est aussi comme ça que le Seigneur travaille, n'est-ce pas? Il montre les choses. Ceux qui vivent selon la miséricorde manifestent de la patience envers les autres. Ils les voient non pas comme ils sont naturellement, mais comme Dieu les voit au travers de la rédemption, au travers du salut. J'aimerais que nous allions dans Jacques. C'est une parole qui est toute simple et combien remplie de sens. Ceux qui vivent selon la miséricorde Jacques 5, verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Ceux qui vivent selon la miséricorde exercent leur patience envers les frères et les sœurs dans l'Église. C'est assez commun, n'est-ce pas? Mais là, il ne s'agit pas de notre attitude frontale, celle qu'on peut avoir dans un face-à-face avec une personne. Il s'agit d'une attitude de cœur, de façon générale. Est-ce que si je repasse en tête ma façon de percevoir les uns et les autres dans l'Église, est-ce que je suis exempte de jugement ? Complètement. Ou est-ce que je trouve que celui-là, celle-là, est-ce que je peux regarder chacun en face et dire je suis exempte de jugement envers celui-là ? Ceux qui vivent selon la miséricorde manifestent aussi leur patience envers le monde. Le Seigneur nous a placés dans des situations où nous pouvons être en difficulté, où nous pouvons être pris en défaut, où il y a de l'agitation, où nous sommes pris à partie, où nous devons prendre des décisions, où nous devons prendre parti peut-être. Est-ce que nous jugeons le monde ? Est-ce que nous avons le droit de juger le monde ? Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Je crois sincèrement que là où le Seigneur nous a mis, c'est là où le Seigneur veut que nous travaillions. Là où le Seigneur et les gens avec qui il nous a placés, c'est là que le Seigneur veut agir. Nous devons être des référents pour cela. Si nous nous conduisons mal, si nous portons des jugements, si nous avons un regard accusateur sur ce qui est fait, et on pourrait le faire, il y a plein de situations dans lesquelles on aurait presque le droit de le faire. Mais alors, qui et comment le salut va arriver à cela, à ces gens ? Jésus était en présence de publicains lorsque la question lui a été posée. Il était en présence de gens de mauvaise vie. Je ne suis pas sûr que nos collègues de travail, je ne suis pas sûr que les gens avec qui nous sommes au quotidien soient pires que les gens avec qui Jésus était en train de manger. N'est-ce pas ? On a toujours l'impression que, voilà, c'est pire. Les enfants, à l'époque, étaient mieux que maintenant. Ce que le Seigneur veut, c'est que tous soient sauvés. Alors ne me demandez pas, ne me parlez pas de prédestination ou de libre arbitre. Là où nous sommes, le Seigneur nous veut à l'œuvre. C'est lui qui connaît les siens. Est-ce que c'est notre attitude lorsque nous sommes dans le monde ? Est-ce que nous avons déjà jugé le monde ? Ou est-ce que nous laissons cela à Dieu ? Il y a ceux qui, vivent selon la miséricorde, manifestent de la sensibilité à la condition et à la détresse des pécheurs. Dans Matthieu 9, Verset 36. Voyant la foule, il s'agit de Jésus, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Être ému de compassion, est-ce que nous réalisons que nous avons un peuple autour de nous qui va tout droit en enfer? Est-ce que ça nous fait quelque chose? Jésus a regardé la foule. Il a vu des gens manipulés par Satan qui n'avaient pas de berger. Ils étaient languissants et abattus. Quelle vision du monde avons-nous? Est-ce que nous avons cette sensibilité en nous qui dit « Regarde, regarde comme ils sont. » Non pas avec une pitié et une condescendance, n'est-ce pas, qui me donne une sorte de supériorité. N'est-ce pas? On n'est pas là pour faire sentir à l'autre à quel point on est meilleur que lui. Est-ce que dans notre cœur, il y a cette émotion tout à fait divine qui voit cette longue marche vers l'enfer, qui voit ce peuple nombreux qui est en train de chuter, de périr? Pas de berger, des âmes languissantes, abattues. C'est comme ça que vit le croyant qui agit selon la miséricorde. C'est cela qui plaît à Dieu. Ceux qui vivent selon la miséricorde manifestent de l'indulgence et du pardon et de l'oubli auprès de ceux qui leur sont redevables. Nous avons pour une illustration l'histoire du serviteur impitoyable dans Matthieu 18. Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et la dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Et l'autre, ému de compassion, mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Est-ce que nous sommes prêts à l'indulgence, au pardon, à l'oubli, crois que l'histoire est suffisamment explicite, n'est-ce pas? On oublie, on passe sur ça trop rapidement parfois. Dieu nous a tant pardonné. C'est Stéphane qui dernièrement me rappelait ça en disant là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Est-ce qu'on peut vivre avec ça dans son esprit toute sa vie et ensuite oublier de pardonner à quelqu'un, exiger le remboursement, lui demander ce que à moi on ne m'a jamais demandé? Le chrétien qui vit selon la miséricorde et qui plaît à Dieu ne fait pas ce genre de choses-là. Il vit en oubliant. Il vit en pardonnant. Avec l'indulgence en permanence accrochée à sa bouche. C'était aussi l'attitude du Père, n'est-ce pas? Lorsqu'il a reçu son fils, le fils prodigue, lorsqu'il est rentré à la maison, le Père a couru vers lui, ému de compassion. Est-ce qu'il lui a demandé de lui restituer ce qu'il lui avait donné? Et parfois, nous vivons différemment. Parfois, nous adoptons des attitudes. Ou parfois, il y a ceux qui vivent en faisant des sacrifices inutiles, en offrant au Seigneur un service qui ne lui est pas agréable et dans lequel il ne prend point plaisir. Si on va plus loin dans Matthieu, chapitre 23, c'est le chapitre où Jésus dit plusieurs fois « Malheur à vous » en parlant des pharisiens. Il le dit 8 fois « Malheur » alors qu'il dit 9 fois « Heureux ». Au verset 23, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Quand on ne connaît pas, ou quand on n'aime pas quelqu'un, alors qu'on sait qu'on devrait l'aimer, il y a un moyen assez efficace pour se donner bonne conscience, c'est de donner de l'argent. Les œuvres humanitaires qui demandent des cotisations fonctionnent sur ce principe-là. N'est-ce pas ? Vous êtes riche, vous vivez dans l'abondance. De l'autre côté du monde, il y a des pauvres qui n'ont rien. On s'en fiche de savoir que vous sachiez où ils sont, qui ils sont, quel est réellement leur problème, mais vous devez leur donner, parce que sinon vous êtes des personnes indignes. Et alors les personnes donnent de l'argent et elles se sentent mieux. Et en plus, on peut le déduire des impôts. C'est un sacrifice vraiment inutile que de donner de l'argent dans l'église. Si c'est pour se donner bonne conscience. C'est un sacrifice vraiment inutile. Si c'est là la raison pour laquelle c'est fait. Les pharisiens donnaient la dîme de l'amande, de la nette. C'était des choses qui n'étaient pas demandées. C'est des choses qu'ils faisaient en plus. Et donc ça leur donnait encore une meilleure conscience, puisqu'ils en faisaient plus que ce qu'on leur demandait. Un peu avant, Jésus a dit autre chose au chapitre 15, même toujours en rapport avec l'argent. Verset 5. Pourquoi transgressez-vous, verset 3, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. N'est-ce pas? Il disait, les pharisiens, que il fallait faire un choix et que l'argent qu'on avait à disposition, il fallait le donner au temple, à l'église, plutôt que de venir en aide à ses parents qui sont en difficulté. Et Dieu et Jésus alors a dit, mais là, vous transgressez la loi, parce que la loi dit, honore ton père et ta mère. On veut plaire à Dieu, et alors on sacrifie même ses proches. Il y en a d'autres qui s'efforcent de paraître respectables. On retourne dans Matthieu 23, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. En Matthieu 6, Jésus parle de ceux qui font des belles prières pour être vus et entendus par les hommes, parce qu'ils veulent paraître quelqu'un. Ils veulent on les remarque. Je ne vise personne quand je dis ça, n'est-ce pas? Je ne vise pas des gens qui prient. Je vise une attitude. Parce qu'on peut avoir cet aspect brillant, cet aspect, ce vernis qui dit « mais il est parfait ». Il est si bien. Et à l'intérieur, ce sont des ossements. À l'intérieur, c'est la mort. À l'intérieur, il n'y a pas de vie. Alors peut-être qu'ils seront très doués, peut-être scrupuleux sur des détails de la parole de Dieu. Payer la dîme, de la menthe, de la nette, du cumin, connaissant des choses, se donnant une façade et un vernis. Mais à l'intérieur, c'est une tombe. À l'intérieur, c'est la mort. Alors, ce sont là des sacrifices bien inutiles que d'agir ainsi, que de donner ainsi. Parce que Dieu ne prend point plaisir à ce genre de choses. Dans Malachie 1, verset 10, « Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel ? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. » Qu'est-ce que nous dit Jésus ce matin ? Est-ce qu'il nous dit « Allez et apprenez » ou est-ce qu'il nous dit « Venez et voyez » ? Dans les psaumes, il dit « Venez et sentez ». Il n'y a pas de jugement dans mes paroles ce matin. C'est une mise en garde. Lorsque Satan est venu pour avoir Job, il a dit « Est-ce de manière désintéressée que Job te sert ? » Est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu ? Et si vous remplacez Job, posez-vous la question. Est-ce de manière désintéressée que Daniel craint Dieu ? Mettez votre nom et n'oubliez pas que c'est Satan qui pose la question à Dieu. Si nous sommes en difficulté ce matin, si nous sommes des chrétiens rétrogrades, ça existe. Si nous avons du mal à avancer, si nous sommes fatigués de paraître ce que nous ne sommes pas, si nous en avons assez de jouer la comédie, j'espère que ce matin il y a une réponse dans votre cœur. Et que de votre cœur, il y a une demande à Dieu qui est de changer la mentalité actuelle, qui est de changer votre façon d'être et de comprendre la parole de Dieu. Et j'ai confiance que si chacun d'entre nous, nous sommes là ce matin, c'est que Dieu nous veut pour lui. Il veut que nous soyons de ceux en qui il prend plaisir. Et il veut que nous changions si nous avons besoin de changer. Dans Ésaïe 45, au verset 22, il est dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous, qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. » Je ne vais pas faire beaucoup de théories sur la façon dont on doit se tourner vers Dieu. Mais quand on se tourne vers Dieu, c'est qu'on oriente ses regards vers lui, plutôt que sur soi. Quand on se tourne vers Dieu, c'est qu'on a décidé dans son fort intérieur que la vie allait changer et qu'on n'allait plus marcher sur le chemin qui était le nôtre jusqu'à présent et qu'on allait réorienter complètement sa façon de voir les choses. Tournez-vous vers moi. J'aimerais juste vous laisser avec ces paroles et que nous prenions 5 minutes pour nous examiner nous-mêmes, pour savoir si notre vie donne du plaisir à Dieu, ou si nous avons besoin de rectifier et de nous tourner vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu. C'est là l'appel du prophète. C'est là l'appel que je lance à chacun d'entre nous et à moi y compris ce matin. que dans notre cœur, il y ait ce mouvement vers le seul qui puisse faire en sorte que nos vies soient entièrement plaisantes devant notre Père. Seigneur, Seigneur, c'est dans toute humilité que nous venons devant toi, que nous présentons devant toi, Seigneur. Seigneur, tu connais chacune de nos vies, tu connais nos motivations. Et Seigneur, le point crucial est de savoir si lorsque tu nous regardes, tu prends plaisir à la vie que nous menons. Seigneur, tu ne négliges pas les commencements. Et tu nous aimes et tu veux que nous arrivions, Seigneur, à la connaissance de cette miséricorde qui fait de nous tes enfants. Seigneur, je prie pour moi et pour chacun de mes frères et sœurs ce matin, afin, Seigneur, que tu réveilles en nous ce désir de nous confier en toi entièrement, de faire toutes choses selon la miséricorde divine et non pas pour un mauvais gain, pour un intérêt personnel. Je prie afin que tu nous viennes en aide si nous avons besoin d'être secourus par toi, et nous en avons besoin. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, qu'on puisse prendre 2-3 minutes et que ceux qui veulent prier, prient. C'est important de nommer aussi les choses et de le dire et de parler à la première personne pour que le Seigneur entende bien quelle est l'intention de notre cœur.